Merci Florent. Bon, en fait, ça tombe bien que c'est Florent qui dit qu'il m'a aidé avec le français, parce que là, je vais vous dire encore une petite chose de moi. En fait, je suis venu ici à Bordeaux en novembre 1994. Et donc, ma femme et moi, quand on est descendu de l'avion, là, à l'aéroport, on avait deux choses en tête, deux mots en français. Bonjour, comment ça va? Et ben voilà, c'était tout ce qu'on avait. C'était des quelques mois très très compliqués de vivre vraiment sans la connaissance de la langue française. Mais je me souviens une fois, j'étais à Pessac, justement, à l'église là, vendredi soir, et on était en train de jouer un jeu de d'Uno, le jeu de cartes d'Uno, et voilà. Je ne pouvais pas gagner, mais franchement, on avait fait 15-20 fois, j'étais incapable à gagner, et finalement, j'ai gagné. Et donc là, il y avait les étudiants autour de moi, et j'étais tellement fier de moi, je me suis carrément levé de ma chaise, et j'ai dit, champignon, je suis le champignon, champignon, champignon. Et bon, voilà, donc aujourd'hui, vous avez le plaisir d'avoir le champignon du monde parmi vous. Et depuis, bon, j'ai appris la différence entre champion et champignon. Mais là, mon problème, c'est que je continue toujours à faire quelques fautes en français. Mais bon, Dieu, il m'a donné une grande bénédiction. Il m'a donné 3 enfants nés à La Rochelle. Donc, ma femme et moi, on est toujours américaines. Mais on espère devenir français très bientôt. Mais mes enfants sont rochelais. Donc, j'ai toujours le plaisir après le culte. Pour mon fils, il a 12 ans maintenant, il arrive. Ah ben papa, ça va aujourd'hui, tu n'as dit que le maison 35 fois. Donc ça va, tu fais t'avances, c'est pas 40 comme l'autre fois. Donc bon, moi, franchement, j'aime énormément le fait que Dieu il m'a donné ce privilège, un, de vivre en France. Pour moi, c'est vraiment un privilège. Et deux, la possibilité de parler cette langue française, que j'aime beaucoup. Hein. Parfois, à La Rochelle, quand on a le repas fraternel, après, moi je dis rien, mais je regarde les autres, et souvent il y a soit un couple ou d'autres, ils sont en train de discuter un seul mot en français, ils prennent 30 minutes pour parler des nuances et comment ça peut être appliqué comme ça. Et pour moi ça me fascine. Hein, ça. Bon, il faut dire qu'en anglais, hein, surtout non, pas en anglais, en américain, on n'est pas si sophistiqué que ça. Là, bon, c'est comme ça. Mais moi je constate hein, que Dieu il me donne cette bénédiction. Donc, si jamais je dis quelque chose qui est bien français, merci Flan, mais merci Joël. Bon, je ne dis pas tout ce que Joël a fait, mais elle nous a aidé beaucoup avec notre français. Et si j'ai fait des fautes, c'est la faute d'Edouard. Il est où hein? Non, mais bon. Quand même, je suis très content d'être ici ce matin. Moi, j'ai un passage qu'on va voir dans quelques instants. Mais quand même, moi, je vais vous expliquer juste un tout petit peu tout ce qu'on avait touché déjà vendredi soir, hier après-midi. On avait pris le sujet de la joie. Et déjà, moi, je vous ai présenté quelques fois cette idée. Qu'est-ce que c'est la joie? C'est un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective. Donc, la joie n'est pas simplement le fait de faire la fête. Ce n'est pas simplement le fait que, ah ben, j'ai plein de joie parce que Bordeaux a gagné. Et est-ce que Bordeaux a gagné hier soir? Ah ben voilà, donc j'ai la joie. Hein. Voilà, on est tous dans la joie, Girondins ont gagné. Donc, ça fait partie de la joie. On peut avoir la joie quand notre équipe va gagner un match. Par contre, est-ce qu'on regarde ce temps aujourd'hui? Ah, il fait un peu frais et on a la pluie. Ah, là, j'ai la joie. Et bien, franchement, si vous êtes comme ça, vous êtes vraiment bizarre. Ben, moi, j'ai déjà dit à quelques personnes, moi, je sais déjà, à La Rochelle, aujourd'hui, on a le soleil. Parce qu'on a toujours le soleil à La Rochelle. N'est-ce pas, Jacques? N'est-ce pas, Isabelle? Et toujours le soleil là-bas. On a... Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais... Franchement, un jour comme aujourd'hui, ça ne me donne pas la joie. Ce n'est pas dans ma personnalité. La joie comme... une émotion vive comme ça. Par contre, avec la pluie, avec le mauvais temps, avec le froid, est-ce que je peux dire quand même, j'ai un sentiment de plénitude, que j'ai la satisfaction de mon âme, malgré le mauvais temps, malgré mon rhume, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai une satisfaction. J'ai mon âme qui est content. Et c'est ça, cette idée de la joie. Ensuite, ce qu'on avait vu, c'est que c'est un commandement quand même, soyez toujours joyeux. Donc soyez toujours, ou gardez toujours un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier, quand vos aspirations, rêves, tout ça, soient satisfaits d'une manière effective. On a vu aussi samedi, on a vu hier après-midi, le fait qu'on peut avoir la joie avec les commandements de Dieu. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre joie. Soit enfant, obéissez vos parents. Et ça donne beaucoup de joie, n'est-ce pas les enfants? Mais ça peut. Hein? Le fait que la Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Mais dans toutes ces choses, on voit que Dieu nous donne sa parole pour notre joie. Mais on avait touché une autre chose, et c'est là que j'aimerais parler un peu plus ce matin. C'est le fait d'avoir la joie avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui permet qu'on m'annonce que j'ai un cancer. La volonté de Dieu qui dit, aujourd'hui, tu vas perdre ton travail. Et là, vous avez la joie, le sentiment de plénitude qui touche votre âme, votre intérieur. Là que vous pouvez dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, même quand ça m'a fait mal. Et c'est là où c'est très compliqué. Hein? Si on est très honnête, il faut dire que nos sentiments sont parfois balotés par ces événements, ces choses qui se passent. Et donc ça peut être si simple, simplement que le fait que, bon voilà, aujourd'hui, j'attendais une journée avec du soleil, avec le beau temps, et j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller à l'église, j'ai pas envie à parler avec les autres. Et pas la joie. Simplement à cause des circonstances. Et donc là, on va parler justement de cette idée, la joie, la satisfaction de notre âme pendant ces moments que Dieu donne, des circonstances de la vie. Donc, je vais vous demander à prendre vos Bibles et trouver dans vos Bibles Romains chapitre 8, verset 28. Et là, le problème peut être tout simplement très bien. Un pasteur qui va parler de nouveau de Romains 8, 28. Franchement, j'en ai marre. Et il est possible qu'un chrétien peut penser comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a un problème? Bon, écoute mon frère, nous savons du reste que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et à ce moment-là, vous n'avez ni envie d'entendre que toute chose concourt, mais surtout pas au bien. Parce que toute chose concourt au bien, quand ma voiture est en panne, c'est ça que tu veux me dire? Toute chose concourt au bien parce que je viens de perdre mon papa. C'est ça, hein? Tu veux me dire que ça c'est un bien? Mais déjà, le verset ne dit pas ça. Et donc, moi je suis persuadé, il faut qu'on prenne le temps pour comprendre ce verset, pour comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, on va voir Romains chapitre 8, verset 28, mais surtout, on va commencer ici avec le verset 18. C'est extraordinaire quand on regarde le contexte d'un passage, on commence à comprendre beaucoup de choses. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Franchement, je ne prends pas le temps vraiment d'expliquer ou de voir ce verset, tout simplement le fait que j'estime que les souffrances. Donc, quand Paul, là, quand il dit « toutes choses concourent au bien », il parle de quoi, principalement? Les souffrances. Il parle de aussi toutes choses, c'est pour ça qu'il employait ce mot. Toutes choses concourent au bien, mais dans ces toutes choses, c'est quoi? C'est les souffrances. C'est le fait que dans vos vies, il y aura des moments difficiles, pénibles, des moments de douleur, des moments qui sont très, très désagréables. J'ai des yeux, je vois qui est ici aujourd'hui. On est un peu moitié jeune, moitié, que j'ai fait partie, moins jeune. Bon, et je ne sais pas quand ça commence, qu'on est moins jeune, mais j'ai le sentiment, au moins corporellement, que je suis dans cette tranche d'âge de moins jeune. Mais quand même, on sait que quand on a 8 ou 18 ans, on a une certaine idée de souffrance. On a une certaine idée de ce qui peut aller mal. Et quand on n'a pas 18 ans, quand on en a un peu plus, on commence aussi à comprendre que les choses, la souffrance. Moi, je constate que maintenant, à 43 ans, j'aimerais avoir les souffrances que j'ai vécues à 18 ans. Et ce n'est pas pareil pour chacun, parce que pour quelqu'un qui a 5 ans, qui vient de perdre son papa, les souffrances. Mais moi, je constate que ça cumule. Et donc, quand je touche ce verset, et quand je regarde ce verset, comme je vous ai partagé, il y avait ce moment où Dieu a changé beaucoup mes pensées avec la maladie que ma fille a eue. Mais même depuis ça, ma femme et moi, on a vu de nouveau les souffrances dans la vie. Je vais vous partager juste vite fait, parce que c'est encore pourquoi ce verset me parle tellement. C'était début de 2006, mi-janvier 2006, donc ça fait 2 ans maintenant, qu'un jour, on a eu un appel de mon beau-père. Mon beau-père, il habite aux États-Unis, il nous a appelé, il a dit, écoute, il faut que je vous dise quelque chose. Et là, il nous a raconté que la sœur de ma femme, ma belle-sœur, elle est mariée avec un homme qui était prof de théologie dans une fac de théologie, double doctorat, et aussi en même temps pasteur d'une église. Il était obligé de nous appeler à dire que cet homme, il a trompé sa femme. Mais pire que... Bon, pire. Je sais pas. Mais pour nous, pire que ça, c'était le fait que c'était avec une fille de 16 ans qui était une ado dans son église, et en plus, c'était la copine de son fils. Et là, franchement, ça n'allait pas pour nous. Ma femme et moi, on avait passé des mois et des mois horribles. Horribles dans le sens que presque 3-4 fois par semaine, on appelait aux États-Unis pour parler avec mes beaux-parents, parce qu'ils étaient vraiment dans la souffrance. Et donc, on ne pouvait pas appeler toujours en plein journée, parce qu'il est décollage horaire, donc on appelait toujours vers 11h, minuit, et on était au téléphone jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc déjà, on était dans la souffrance parce que simplement, on n'avait pas le sommeil qu'on a eu besoin. Mais pire que ça, c'était la souffrance émotionnelle que, ben voilà, mais qu'est-ce qui se passe avec un homme comme ça? Et on était horrifiés. Et franchement, moi je vous dis, pour ma femme, elle était complètement bouleversée. Parce qu'elle voyait sa grand-sœur, elle voyait cet homme-là, son beau-frère, comme presque comme modèle. Et ben voilà, le modèle est tombé. Hein. Et à ce moment-là, ma femme, elle a eu des pensées. Elle ne voulait pas, mais elle me disait, et alors Marc, toi, tu restes fidèle à moi? Et je lui ai dit, Denise, écoute, oui. Et vous voyez le problème? Cet homme a dit la même chose à sa femme pendant des années. Et donc, on a eu un moment de souffrance quand Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il est très très compliqué à dire que, ah ben voilà, nous on vit cette infidélité avec un membre de la famille, on vit ce gros problème. Il a perdu son travail, il était humilié devant la communauté. Et comment on va vivre ça avec la joie? Ah, mais rappelez-vous, c'est quoi la joie? La satisfaction de mon âme, que Jésus-Christ est la seule chose qui compte dans ma vie. Mais très, très compliqué. Quand on est dans ces situations, on voit les choses qui font très, très, très mal. Et à ce moment-là, il faut que je dise, mon âme est satisfaite. Bon, je suis vraiment un chrétien content. Et moi, j'ai quand même quelques soupçons qu'aujourd'hui, il y a parmi nous certains que vous vivez, pas peut-être tout à fait la même chose, mais ces types de souffrances comme ça. Que ben voilà, ça va pas trop. Hein. Quand vous voyez comment la vie, comment elle est. Et ça peut être tout simplement un enfant, un ado, qu'à l'école, et vous êtes tourmenté. Il y a 2-3 méchants qui cherchent à vous embêter sans cesse. Ou ça peut être aussi simplement le fait que, ben voilà, vous n'êtes pas extrêmement doué pour les études. Et ce n'est pas donné à chacun, ce n'est pas... Il ne faut pas avoir honte quand on fait tout ce qu'on peut. Et là, ben voilà, on a toujours 8 sur 20, 9 sur 20, et j'ai passé des heures pour apprendre ça. Ça peut être quelqu'un qui est horriblement tourmenté au travail, avec un patron qui est méchant, avec des collègues de travail qui ont la vie pourrie. Ça peut être un conflit à la maison, ça peut être une maladie, ça peut être juste simplement quelque chose qui se passe là. On ne sait même pas pourquoi on est troublé. Mais bon, voilà, c'est là. Alors, qu'est-ce que la Bible dit pour vous à ce moment-là? La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et encore, on a envie de dire, mais attends, mais montre-moi le bien. Je regarde devant, c'est que de souffrance. Je regarde derrière et c'est que de souffrance. Ça ne va pas. Donc moi, je veux plus que simplement toutes choses concourent au bien. Et voilà ce que je vais vous montrer. D'abord, quand on dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien, il y a certaines Bibles qui ne traduisent pas le verset exactement comme ça. Et moi, franchement, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, il y a une autre possibilité pour justement la traduction de ce verset. Ici, on voit que toutes choses concourent au bien, on voit que toutes choses, c'est le sujet de ce verset. Il est possible, et vraiment, moi je pense, c'est légitime à dire que toutes choses, ces deux mots-là, ce n'est pas le sujet de ce verset, mais c'est l'objet. Et à ce moment-là, on dit, mais c'est quoi le sujet? Et on peut ajouter, très légitimement, surtout dans la langue grecque, un « il ». Et si c'est « il », c'est qui? C'est Dieu. Il y a des manuscrits du Nouveau Testament, il y a plusieurs manuscrits en grec, et il y a même certains qui ajoutent le mot « théos », Dieu. Et littéralement, on peut traduire ce verset, « Nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. » Et c'est tout à fait légitime. Alfred Kuhn, il a, dans un peu sa traduction « Parole vivante », il dit « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. » Et donc, tout à fait légitime cette idée-là, on peut dire que, et alors nous savons que Dieu fait concourir. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui fait travailler ensemble toutes choses de la vie pour finalement le bien. Et en plus, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça dit nous savons. Et en fait, à l'époque de Jésus, à l'époque de l'apôtre Paul, bien sûr, la Bible, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Et donc, dans la langue grecque, il y a plus qu'un seul mot qui est traduit, nous savons. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 2, versets 3, 4 et 5, on voit 3-4 fois où Jean, il dit, nous savons, et ensuite il dit, par cela. Et en fait, ce qu'il dit, il dit, nous savons par expérience. Il m'est arrivé quelque chose et maintenant je sais. J'ai touché le feu, maintenant je sais, ça fait mal. Un peu cette idée-là. Ici, quand il dit « nous savons », il ne touche pas cette idée-là. Il dit « nous savons » et en fait, c'est une idée qui veut dire « voir avec les yeux de l'esprit ». Donc, une pure et claire perception mentale. Nous savons ici, intellectuellement, mais qui touche entièrement notre cœur. On sait que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Mais comment on sait ça? Est-ce qu'on a vécu toutes choses? Non. Est-ce qu'on a tout expérimenté? Non. Mais il dit, on sait quand on regarde la Bible, on a un Dieu qui gère toutes choses finalement pour le bien. Alors, qu'est-ce que c'est le bien? Parce que pour moi, c'est ça qui compte. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien. Quel est mon bien? Regardez ensuite dans le verset 29, jusque verset 29 et 30. D'abord, il dit à la fin de 29, « De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Êtes-vous prédestinés? Ne répondez pas. Ça se peut, hein. Mais êtes-vous prédestinés? Est-ce que vous êtes certain que vous êtes prédestinés? Bon. Et ensuite, il a dit, « Prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit premier-né de beaucoup de frères. » Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Êtes-vous appelés? Je crois, non. Et ceux qu'il a, appelés, il les a aussi justifiés. Êtes-vous justifiés? Et là, moi, je dis oui. Là, pour moi, je sais. Mais bon, comment je sais que je suis justifié? Très simplement, l'idée d'être justifié, c'est d'être rendu juste ou pardonné. Alors, il y avait un jour de ma vie quand j'ai dit, Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Et la Bible dit, il est fidèle, il m'a pardonné. Donc moi, je sais que je suis pardonné. Et si je suis pardonné, la Bible dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et donc, Dieu dit, toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son plan. Quel est le plan de Dieu? Il va prédestiner, appeler, justifier et finalement glorifier les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être glorifié? Ça veut dire rendu parfait. Et on devient parfait où? Au ciel. Donc, littéralement, ce verset dit, toutes choses concourent au bien ou au moment quand on va aller au ciel. Et donc, pourquoi Dieu permet la souffrance? Pourquoi Dieu il permet ces choses-là? Parce qu'il a un plan pour vous former, justement, pour votre chemin, pour votre voyage au ciel, la vie. Et à chaque instant, il prend même ces moments de souffrance pour vous former, pour que vous puissiez être de plus en plus comme dans l'image de Jésus, justement, pour votre avenir au ciel. Bon. Est-ce que ça vous suffit? Je ne sais pas, peut-être vous avez énormément plus de foi que moi, mais moi je regarde ça et j'accepte, et je suis tout à fait d'accord. Avec les dents serrées, je dis, ah oui Seigneur, j'accepte avec joie tout ce que tu me donnes. Merci pour la souffrance. Oh! Mais heureusement, Dieu, quand même, il a compris quelqu'un comme moi. Quelqu'un peu têtu, qui manque un peu d'intelligence. Bon, je ne sais pas. Hein. Quel est mon problème? Je ne sais pas. Et là, il faut inviter une fois ma femme pour expliquer tous mes problèmes. Mais bon, quand même, regardez le verset 31. C'est génial ce verset. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Tout à fait le même mot quand il dit « toutes choses concourent au bien ». Et Paul, ah mais bon, peut-être, je suis comme l'apôtre Paul, hein, c'est ça, je suis exactement comme lui. Mais quand même, c'est vraiment une très bonne question. Alors Seigneur, pourquoi ces choses-là? J'accepte, hein, aucun problème, tu vas faire concourir toutes choses pour m'amener au ciel. Hey, mais qu'est-ce que je vais dire de ces choses-là? Les choses qui me font très très mal parfois. Le fait que quelqu'un peut se lever, bon, bonjour, j'ai 13 ans, et à l'école, je suis rien, hein. Je suis écrasé par les profs, méprisé par mes amis. À la maison, ça ne va pas trop. Alors, Dieu, merci pour toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et voilà ce que Dieu dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je vais vous donner quelque chose pour moi qui... C'est une chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à comprendre cette idée-là. Je vous promets, c'est archi simple. C'est vraiment pas une idée très profonde. Bon, ce n'est pas un exemple que les grands philosophes vont donner, mais quand même, pour moi, ça m'explique tout. J'ai 3 enfants, et là, j'ai 2 filles qui souffrent un peu d'asthme. Donc, dès mi-novembre jusqu'au fin avril, ça va pas trop chez moi. Hein. Tu fais partie du club de mes enfants. Salut! Mais toute la nuit, tout le temps, qu'est-ce qu'il y a? Et bon voilà, on a découvert un médicament qui marche très bien. Et selon mes enfants, ce médicament a le goût de, si on fait marcher un chien dans la boue, et ensuite On frotte ensuite les pâtes de ce champ avec les épinards, ensuite on lâche la pâte. Ça, c'est le même goût que ce médicament. Bon, j'exagère un peu, mais mes enfants, surtout mes filles, elles détestent à fond ce médicament. Ah, mais papa, on ne veut pas, ça nous fait vomir, c'est horrible, tu sais, ça c'est pire que la maladie. Non, mais papa, on ne veut pas. Et qu'est-ce que je fais, moi? Ouvre ta bouche. Bon, voilà, on met le médicament dedans. Pourquoi? Dans ce cas-là, qui est plus sage? Moi ou mes enfants? Moi, je veux dire que chaque fois, je suis plus sage que mes enfants, mais bon, je ne veux pas me vanter trop, mais bon, là, au moins, je sais. Tu vas prendre ce médicament, c'est m'est égal si c'est quelque chose d'horrible, là, tu es obligé. Ah ben voilà. Devinez quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe après? Enfin, tous moi. Et ben voilà, mes filles sont obligées à ce moment-là. Ben encore, papa, t'as eu raison, hein. Ça n'arrive pas trop, mais voilà, papa, on te donne raison cette fois-là. Pourquoi? Parce que moi, dans la toute petite sagesse que j'ai plus que mes enfants, je sais qu'il faut leur faire un peu souffrir. La souffrance, hein, c'est le médicament qui a un mauvais goût. Mais quand on a 6 et 8 ans, c'est vraiment horrible. Hein? Oh, mais pas encore, papa. Et c'est fou, hein, mais on lutte dans la maison. Vraiment, ça ne va pas quand il faut que je donne le médicament à mes filles. Et moi, je sais il faut. Parce que, un, je suis un peu fatigué de me réveiller toute la nuit parce qu'elles toussent sans cesse. Et deux, je sais pour leur santé, ça va beaucoup mieux s'elles dorment. Donc, je donne le médicament et après, ça fait un bien. De quelque part, c'est exactement ce que Dieu dit ici. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Regardez juste en bas, donc ensuite, même dans le verset 37. Mais dans toutes ces choses, dans tout ce qui se passe, toutes les souffrances, si vous êtes prêts à suivre la volonté de Dieu et accepter avec joie et la satisfaction et le contentement de votre âme, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ensuite, j'ai l'assurance que ni la mort, la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, on a dans la Bible un Père. Dieu se présente comme notre Père Céleste. Hébreux chapitre 12 dit tellement clair, si nous avons les Pères terrestres qui nous donnent parfois les punitions pour nous aider, combien plus un Dieu qui est parfait va nous corriger, va nous donner ce qu'il faut pour avancer dans notre foi. Et alors, pourquoi la souffrance? C'est parce que Dieu sait qu'il faut nous former. Et honnêtement, bon, juste en regardant les personnes que je connais à La Rochelle, je sais que pour certains, l'école de Dieu est très très compliquée. Et l'école de Dieu fait très très mal parfois. Et donc, un, moi j'ai énormément de compassion pour les gens qui vivent comme ça. Et deux, et aussi, moi je suis convaincu, quelque chose à dire à ces personnes-là. Dieu donne toutes choses pour nous former pour notre bien ultime. Qu'on soit au ciel avec lui. Et donc, comme je vous ai dit hier, parfois la joie vient avec les larmes, parfois la joie vient avec la dépression, parfois la joie vient avec un esprit écrasé, mais tout simplement avec un sentiment qui, ça va pas trop, hein. En même temps, je peux dire, même si c'est juste une toute petite pensée, j'ai quand même une satisfaction que Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne comprends pas trop. Hein. Même, je ne comprends rien. Dieu est en train de faire concourir toutes choses dans ma vie pour m'amener jusqu'au bout. Je vais lui faire confiance. Il est plus sage que moi. Il est plus grand que moi. Il est plus puissant que moi. Et là, d'accord, Dieu. Avec l'angoisse, comme on a vu avec Jésus, quand il priait, avec les larmes, avec vraiment les moments quand même, peut-être, on doute un peu, hein. Et on dit, quand même, moi, je sais que Dieu va me diriger, je sais que Dieu va m'apprendre jusqu'au bout, et je lui fais confiance parce que nous savons, il a donné sa parole. Il va faire concourir toutes choses au bien pour ceux qu'il aime. On a quelques minutes qui restent. On a deux possibilités. Moi, je peux continuer de parler sans cesse. Moi, je suis vraiment doué pour ça. Hein. Malheureusement, ma famille constate que, ah papa, hein, tu sais, tu peux parler beaucoup. Hein. Ou sinon, moi, bon, mais ça ne m'intéresse pas trop. Hein. J'ai déjà entendu tout ce que je veux vous dire. Je vais vous donner donc, juste pour quelques minutes, la parole. Mais dans ce sens. J'ai donné ces choses, mais c'est quand même des choses qui sont très compliquées. D'abord, moi je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Qu'est-ce que c'est la joie? Hey, mon ami est mort! Non, ça, donc ce n'est pas la joie. La joie est la satisfaction de mon âme, que je suis content avec le Seigneur. Donc, moi je suis persuadé, entièrement persuadé, on peut pleurer et on peut être même dans le deuil en gardant la satisfaction de notre âme. Jésus, quand même, moi je pense que Jésus était dans la satisfaction parce que Jésus avait quelques connaissances de plus. Il savait, non mais moi, je suis triste pour ce qui arrive, mais je sais aussi qu'il va être ressuscité dans quelques secondes. Donc il y avait ça. Ou si demain ma femme, si ma femme demain elle meurt d'une crise cardiaque, mais c'est terminé. Sauf, où est-ce que je peux garder ma joie? Ma femme, elle est chrétienne. Moi, je vois la preuve. Donc, ce n'est pas la fin. Donc, la Bible dit, dans la Bible, un Thessalonicien quelque part. Excusez-moi, mais ça parle du fait que nous, chrétiens, on n'est pas dans le deuil comme les non-chrétiens. Et en fait, c'est le passage là qui parle de la résurrection. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on est triste. La Bible ne dit pas que, ah ben nous chrétiens, on n'est pas tristes parce qu'on sait, après on va se voir au ciel. Non, nous sommes tristes, mais pas comme les non-chrétiens. Mais pourquoi on peut dire ça? Parce qu'on sait que si c'est un chrétien, on va voir cette personne après. Ça devient plus compliqué avec un non-chrétien. Ça, et je pense, à mon avis, il y a beaucoup ici qui sont confrontés avec ce problème. Avec les parents non-chrétiens, avec les frères non-chrétiens, avec la famille qui n'est pas sauvée. Et ça, c'est une question qu'il faut poser à votre pasteur. Hein. Là, ça, c'est beaucoup plus compliqué, cette idée-là, mais bon. D'autres questions? Exactement. Ouais. Et j'avoue, j'ai triché pour deux choses. Un peu à cause du temps, et deux, je suis lâche. Non, c'est c'est bien. Bon, on est prédestiné, on est appelé et on est justifié. Je veux éviter la polémique avec votre assemblée. Donc, j'ai aucune idée quelle est votre position sur cette idée. Donc, je vous donne mon avis, de ma manière, et après, je m'en vais cet après-midi. Donc, si vous êtes fâché, bon, ça dure jusque cet après-midi. La Bible dit qu'on est prédestiné et il y a d'autres passages qui montrent que ça c'est un choix de Dieu, qu'on est choisi. Comment? Moi j'accepte que c'est par le choix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu me regarde, eh bien Marc il va m'accepter donc je vais le choisir quand même. Pour moi c'est le fait que Dieu dans sa sagesse il décide, ben voilà celui-là va être sauvé. C'est horriblement compliqué, ça fait des siècles de débats. Mais mon problème à moi, c'est que je suis mort dans mes péchés avant que je suis sauvé. Donc comment je peux choisir Dieu? Romains chapitre 3 dit que je suis même insensé, que je cherche. Nous ne cherchons pas Dieu. On est tous égarés, insensés. Et à ce moment-là, on a besoin d'être pris par Dieu. Et donc, bon, ça c'est quand même bien. Merci que vous avez posé cette question. Parce que qu'est-ce que ça me montre? En tout cas, c'est Dieu qui gère ma vie de A à Z. Il gère même mon salut. En même temps que la Bible dit, je suis aussi responsable devant lui pour mon choix, même que je ne peux pas faire le choix. Là, c'est un peu plus compliqué, mais... Et quand il dit, il nous a aussi appelés, pour moi, c'est le fait que l'Esprit de Dieu travaille dans mon cœur. Et il réveille ce qui est mort en moi. Donc, Je ne sais pas si à ce moment-là, maintenant, vous allez tous dire « Ah, calviniste, sort d'ici !» ou « Tu n'es pas suffisamment calviniste !» Bon, pour moi, ce n'est vraiment même pas une question de calviniste ou pas, c'est simplement « Qu'est-ce que la Bible dit ici ?» Donc, bon, j'espère que c'est suffisant. Mais le problème, c'est d'essayer d'expliquer quelque chose qui est très compliqué. Donc, voilà. Et en fait, j'allais vous dire aussi, il se peut, avec le peu de temps qui reste, c'est peut-être que vous n'avez pas une question, mais simplement un témoignage. Et ça m'intéresse aussi d'une manière que vous avez vécu une épreuve, mais en gardant votre satisfaction de l'âme, en gardant votre joie. Donc, moi je vous invite dans les deux choix, hein, soit une question ou sinon un témoignage. Donc. Mais il ne reste que 3 minutes, donc il ne faut pas hésiter.
Surtout dans le sens dont vous avez abordé l'objectif de l'après. Et ça, on peut donner le Saint-Esprit. Un travail du Saint-Esprit qui nous amène. Parce que si on reste dans les... C'est vrai que c'est insupportable.
Oui, oui. Il y a quelque chose là aussi qui me touche profondément. Dans le sens quand la Bible dit « nous savons ». Mais quand même, il faut dire « nous savons » plutôt ici parce qu'on n'est pas, encore vécu demain. Donc si on m'annonce aujourd'hui un cancer, mon problème c'est « je ne sais pas demain ». Et peut-être demain je vais être guéri miraculeusement. Et là, quel témoignage. Ou sinon, peut-être demain je vais mourir. Et ça va être mon témoignage. Le fait que ma famille peut dire « ah, oh, mais là, Marc, jusqu'au bout, gardez sa foi ». Mais je ne connais pas ça. Quand même, on a certaines choses dans la vie. Moi, je pense que c'est des exemples divins, si on veut. Une femme, 9 mois de grossesse. C'est que de la joie, n'est-ce pas? Bah, ma femme, avec 2 filles, bon, voilà, elle, bon. Au bout de quelques moments, ben voilà, Marc, je suis enceinte. Ah, très bien. Et au bout de 3 ou 4 semaines maximum, elle a commencé à avoir le nausée. Et la nausée a duré jusqu'au moment de la naissance. Elle avait la nausée pendant qu'elle avait les contractions. À ce moment-là, franchement, ma femme n'a pas eu trop de joie. Et là, j'exagère largement parce qu'elle n'avait aucune joie, sauf juste une satisfaction que, hein, au bout de 9 mois, voilà, et au bout de 9 mois, ah, un enfant. Mais pendant ce moment-là, ma maison était... était un peu triste parfois. Alors ma femme, elle s'est levée, j'ai envie de vomir. Midi, toujours envie? Oui. Soirée? Oui. Arrête de me demander la question. Au bout de quelques semaines, je ne posais plus la question parce que voilà, ça va durer jusqu'au bout. Mais à la fin, ben voilà, ça c'est un exemple. Et si vous êtes maman, à mon avis, vous voyez, hein, le fait, cette souffrance, mais jusqu'au bout. Maintenant, un autre exemple qui, franchement, j'ai presque honte à vous donner cet exemple. Après, j'ai donné cet exemple glorieux d'une femme qui est enceinte, qui donne naissance. Mais j'ai déjà parlé avec quelqu'un. En 2006, j'ai pris quelques kilos. Quand j'ai défini kilos, je parle de entre 15 et 20 kilos. Bon, c'était pas ma faute, hein, c'est la faute des Français. Mais si vous arrêtez à faire les chaussons pommes, les chocolatines, mais ça, c'est mon problème, hein. Et sérieusement, moi je vois que ben voilà, pendant 29 ans de ma vie, je n'ai jamais mangé des pâtisseries françaises. Et voilà, ben je viens ici, il faut que je rattrape. Donc ça veut dire, à 58 ans, là j'arrête, hein, parce que je double chaque jour. J'ai dit, quand j'avais 18 ans et un jour, je n'avais pas mangé un chausson de pompe, donc je prends 2 aujourd'hui. J'ai pris du poids. Et comment je vais perdre ce poids-là? Et j'ai vraiment envie de perdre du poids, avec la souffrance. Et honnêtement, si vous n'avez pas un problème de poids, vous n'avez aucune idée de ce que je parle là. Mais pour moi, c'est une souffrance. Et vous dites, oh, mais tu vas comparer la grossesse d'une femme avec tes petits problèmes de poids. Non, mais quand même. C'est du vrai, hein. Je regarde, bon, je passe devant le boulanger, la boulangerie, et là... Donc, même avec quelque chose si simple que ça, c'est pareil pour les études. Vous voulez avoir 18 sur 20, il faut la souffrance. La souffrance qui dit, au lieu de jouer Nintendo, DS64, PSP, bon, je suis très doué avec ces choses-là, je vais lire un livre. Et ça peut être une toute, toute petite souffrance, mais qui après, qui donne quelque chose d'autre. Donc, on voit quand même des tout petits exemples dans la vie qui montrent cette grande idée de Dieu qui nous appelle parfois à la souffrance, mais juste pour nous pousser jusqu'au bout. Je vais faire, je vais, je vais, je vais terminer.